Je vous salue, frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix vous accompagne. Nous voulons ouvrir la parole de notre Dieu dans l'Épître aux Colossiens. Et aujourd'hui, nous allons lire Colossiens chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 24 jusqu'au chapitre 2, verset 3. Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 24. Dans le premier chapitre, dans ce premier chapitre de l'apôtre Paul aux Colossiens, l'apôtre rend grâce à Dieu, entre autres pour la foi de ses frères en Christ, de Colosse, et il explique pour quelles raisons que c'est en Jésus-Christ seul, justement comme nous l'avons chanté, que l'homme devait mettre sa confiance pour son salut. Et puis, il explique que Jésus, dans ce chapitre 1, à partir du verset 15, que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est donc Dieu fait homme, celui seul qui connaît le Père et qui l'a fait connaître aux hommes. Il explique que Jésus, il dit, est le premier-né de toute la création pour dire qu'il est l'héritier de toutes choses, qu'il a le rang le plus élevé. Il dit que Jésus est le créateur de toutes choses, versets 16 et 17. Donc c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il dit que tout a été créé par lui et pour lui. Il explique que Jésus est la tête du corps de l'Église. Donc c'est lui le chef suprême de l'Église. Et il est aussi celui qui réconcilie l'homme avec Dieu, Dieu le Père. Donc, comme l'apôtre Paul le dit dans Timothée, que Jésus, il est le médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et dans les versets 23 et suivants, là, l'apôtre annonce donc qu'il a été fait ministre pour annoncer l'espérance de l'Évangile, il dit, savoir qu'un jour, celui qui met sa confiance en Jésus, celui qui est réconcilié avec Dieu, alors il dit, il paraîtra saint, sans défaut et sans reproche devant lui. Donc, c'est ce qu'il dit, dans, si je relis ces versets 21 et suivants, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Faire connaître le mystère de Dieu. Tel est le ministère donc de l'apôtre Paul. Faire connaître ce mystère. Et dans le passage que nous allons lire, il va le définir. Et puis, on va voir ce qu'il faut pour apprendre à mieux connaître ce mystère qu'est Jésus-Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est ce qu'il dit. Et puis, voir ensemble quelques résultats du fait de connaître le mystère de Christ, savoir Christ qui vit en nous. Alors, j'aimerais lire ce passage avec vous, Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Voilà. Vous avez vu que, à plusieurs reprises, l'apôtre Paul parle donc de mystère. Verset 26, il dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Il dit « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Et à la fin de cette lettre, au chapitre 4, il dit au verset 3, « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. » Faire connaître le mystère de Christ. Telle était la mission, le ministère de l'apôtre Paul. Et c'est ce que Dieu veut que nous connaissions aussi, le mystère de Christ. Et dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul parle donc du mystère comme étant la parole de Dieu, comme étant une glorieuse richesse parmi les païens. Donc il dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Ce mystère, c'est Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et donc, ce mystère que l'apôtre Paul veut nous faire connaître, c'est le Christ, pleinement Dieu et pleinement homme, décrit donc dans les versets 15 à 23, donc je vous ai fait un petit résumé. Et donc, il dit « Qui est Jésus-Christ ?» Et le mystère, c'est Dieu qui vient habiter en l'homme, pas en n'importe qui, en ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Il vient habiter dans leur cœur. Alors, au verset 26, la définition qu'il donne, c'est que il dit un mystère est quelque chose donc, qui est caché de tout temps et dans tous les âges, il dit. Mais révélé maintenant à ses saints. Donc, ce qui était un mystère ne l'est plus. C'est un mystère pour ceux de l'Ancien Testament qui ont parlé de Jésus, mais il y a beaucoup de points d'ombre qui étaient là. Et même lorsque nous avons vu ce texte de Luc, où le Seigneur Jésus-Christ dit que Jean-Baptiste, qu'il n'y a pas d'homme ni de femme plus grand que Jean-Baptiste, mais que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. C'est là aussi ce mystère. Et pourquoi? C'est parce que, et l'apôtre Paul nous le révèle, c'est parce que Dieu vient habiter dans nos cœurs. et il vient y demeurer éternellement pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Un mystère qui est maintenant révélé, il est dit à ses saints. Les saints, ce ne sont pas ceux qui ont été béatifiés ou canonisés, ce que vous voulez. Ce sont tout simplement ceux qui ont mis leur foi en Jésus, qui ont été déclarés justes par Dieu, sanctifiés par le sang de Jésus. Et donc, le Seigneur nous a révélé dans sa parole donc, tous les mystères que nous devons connaître. Il n'y a pas donc de nouvelles révélations, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des initiés. Tous les enfants connaissent ce mystère qu'est Jésus-Christ. Il dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Et le truc, c'est que nous ne sommes pas conscients ou nous vivons en négligeant cette réalité. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La présence de Christ en nous qui va orienter donc notre vie, qui va conditionner notre vie. Et parfois, nous oublions cela, que Christ vit en nous. Et pour donc connaître le mystère de Dieu, qui est savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, la première des choses, c'est il faut que Christ soit réellement en nous. Parce que si Christ n'est pas en vous, vous ne pouvez pas connaître ce mystère. Ça restera un mystère pour vous. Il faut que Christ vienne habiter en vous. Et pour connaître le mystère de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 6, par exemple, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Dans 1 Jean chapitre 4, verset 15, il dit « Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est extraordinaire. Comment le Dieu créateur de toutes choses vient habiter en un cœur qui, nous qui ne sommes que poussière. Romains chapitre 8 rappelle la nécessité pour chacun de, un peu comme on a lu ce matin pour Pierre, et comme Pierre et les autres ont fait, ils ont mis leur foi en Jésus. Dans Romains chapitre 8, je peux lire avec vous ces quelques versets. Romains chapitre 8, à partir du verset 9, il dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, si on n'a pas l'esprit de Christ, on ne lui appartient pas. Christ en vous, c'est son esprit qui vit en nous et qui nous aide à avancer dans la vie, et c'est ce qu'on va voir. Et donc, cette connaissance du mystère de Christ, savoir que Christ qui vit en nous, cette connaissance, nous l'avons non seulement parce qu'il habite en nous, et donc c'est déjà la première des choses, mais il faut grandir dans la connaissance, dans cette connaissance. C'est plus on va grandir dans la connaissance de Dieu, plus on va grandir dans la connaissance de sa parole, plus on sera conscient et on va vivre cette réalité. Christ vit en nous. Christ vit en moi. Et donc je dois le laisser vivre Et c'est ce que disait l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a sauvé. Et donc, j'aimerais nous encourager ce matin à, déjà, si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus, et on l'a entendu encore ce matin, c'est lui le seul moyen de salut, qu'il n'y en a de salut en aucun autre. Donc, à vous tourner vers Jésus-Christ, à l'accepter comme votre Sauveur et Seigneur, et vous allez connaître ce mystère, et Christ va venir habiter en vous. Et pour nous qui l'avons fait, c'est avoir une meilleure connaissance de ce mystère, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Avoir une meilleure connaissance de cela. Et pour cela, le Seigneur Jésus a choisi des hommes qu'il a appelés et à qui il a confié cette mission de révéler aux hommes ce mystère qui était caché. Et donc, l'apôtre Paul et les autres ont été au bénéfice de cet éclaircissement et ils nous les ont mis par écrit dans la parole. Et donc, nous avons toute la révélation, nous avons tout ce qu'il faut. Ce qui était caché ne l'est plus, donc ce n'est plus un mystère. Ce qui était mystère ne l'est plus, puisque nous avons toute la révélation. Le Seigneur nous a tout laissé, et donc nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors il y a certains, et c'est donc aux Colossiens, c'est un peu ça que combat l'apôtre Paul, c'est contre certains qui pensaient que pour avoir être de super spirituel, il fallait faire certaines expériences mystiques pour arriver à la pleine connaissance. Donc l'apôtre Paul dit, non, pas du tout. Vous avez Christ en vous, et cela vous suffit. Vous n'avez pas besoin, et on va le voir par la suite, de faire telle ou telle expérience spirituelle pour arriver à tel niveau spirituel, pour pouvoir connaître le Christ. Le Christ, il est en vous. Et donc, ce que vous avez besoin de savoir, c'est le laisser agir en vous. Et donc, pour connaître et avoir une meilleure connaissance de Christ qui est en nous, espérance de la gloire, il est bon d'écouter les exhortations qui nous sont adressées. Au verset 28, l'apôtre Paul dit, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Donc, écoutez les exhortations ou les avertissements. Dans d'autres versions, nous avons cela, exhorter ou avertir. Et donc, pour avoir une meilleure connaissance de ce mystère, il est bon que nous acceptions d'entendre, d'écouter les exhortations, les avertissements qui nous sont adressés, que nous lisons dans la parole ou bien que d'autres peuvent nous donner pour notre édification. L'autre chose, c'est, comme il est dit, de recevoir les instructions. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, quelle place accordons-nous à l'instruction? Quelle place accordons-nous à l'enseignement de la parole de Dieu? Si nous voulons avoir une meilleure connaissance de ce mystère qu'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, cela ne passe que par le temps de l'enseignement de la parole, l'étude de la parole de Dieu. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'important pour nous ou pas? Et ça doit être quelque chose d'important. Et c'est pour cela que, au niveau de l'Église, nous organisons des réunions d'études bibliques, des réunions, des formations, etc., pour que les uns et les autres grandissent dans la connaissance du Fils de Dieu et pour qu'ils voient les résultats dans leur vie de cette réalité, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, ces résultats, déjà, quand on voit l'exemple que nous donne l'apôtre Paul, il dit au verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Et c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » L'apôtre Paul, comme vous et moi, a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Lui, dans son témoignage et dans sa vie, il persécutait les chrétiens. Et un jour, alors qu'il était sur le chemin de Damas, ça on le lit dans Actes chapitre 9, le Seigneur lui est apparu. Le Seigneur qui croyait être mort, enterré, il le voit ressuscité. Et le Seigneur lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Alors, lorsque Saul voit le Seigneur Jésus, la première des choses qu'il dit, « Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Va, on va te dire ce que tu vas faire. » Il a reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur. Et il a confessé cela aux frères et il s'est fait baptiser. Et après, dans Galates, il nous dit qu'il s'est retiré pendant 3 ans. Et là, le Seigneur lui a donné des révélations. Et ces révélations ont été reconnues, acceptées par les autres. Il dit qu'ils sont vus comme des colonnes, Pierre, Jacques, Jean, et qui lui ont donné la main d'association, donc reconnaissant que Paul était au même titre qu'eux, apôtre, du Seigneur Jésus-Christ, avec l'autorité que lui conférait son ministère d'apôtre. Et donc, l'apôtre Paul, puisqu'il a accepté Jésus dans sa vie, Christ est venu habiter dans son cœur. Et en grandissant dans la connaissance de son Seigneur, il a compris aussi qu'il avait... il allait avoir une part de souffrance qu'il devait accepter pour la cause de Christ. Et c'est ce qu'il dit. Il dit que ce qui manque aux souffrances de Christ, il achève en sa chair. Il était en prison lorsqu'il écrit cette lettre aux Colossiens. Et s'il était en prison, ce n'est pas parce qu'il avait fait quoi que ce soit de mal. Il était en prison à cause de sa foi. Et pour lui, être en prison, et comme pour les autres, on a lu le texte dans les Actes où Pierre a été arrêté, et eux, ils se réjouissaient de souffrir pour Christ, parce que Christ a souffert pour eux. Et pour eux, c'était une gloire de pouvoir souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, donc, il a compris cela, et en ayant compris que parce que Christ vit en lui, la souffrance qu'il devrait connaître, cette souffrance-là, le Seigneur va le soutenir parce que c'est Christ en lui qui va l'aider, qui va l'accompagner. Et donc, il va accepter la part de souffrance liée au ministère qu'il doit accomplir pour son Seigneur. Et par moment, lorsque nous avons pris conscience qu'être chrétien, cela implique d'accepter une part de souffrance, parfois nous avons tendance à faire machine arrière. Parfois nous avons tendance à tirer le frein à main pour dire « Oh là, on va se calmer un peu parce que moi je ne suis pas prêt à accepter toutes ces souffrances. » Je ne suis pas prêt à faire tel ou tel sacrifice. On me demande de trop. Mais lorsqu'on vit cela, et lorsqu'on a grandi, on a progressé dans sa foi. On a compris ce que Jésus-Christ a enduré pour nous et ce que nous, nous devons être prêts à faire pour lui, pour son Église. On accepte la part de souffrance qui va avec. Puisque Jésus a accepté la souffrance nécessaire, indispensable, pour que nous puissions être sauvés. Ça, c'est déjà la première des choses. Qui fait que lorsqu'il est en prison, il ne dit pas que il est en prison à cause des Romains, il dit qu'il était prisonnier de Jésus-Christ. Puisque c'est sa condition, sa situation était liée au fait de son ministère. Donc, il accepte de souffrir. Il accepte aussi la charge que Christ a bien voulu lui confier. Donc, ce verset 25, il dit que donc, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Il a accepté cette charge. Il a accepté ce travail. Il a accepté ce ministère, puisque il savait que ce n'était pas avec ses propres forces qu'il allait pouvoir l'accomplir. Il savait que c'était avec la force que le Seigneur, avec la force du Seigneur, qu'il pouvait le faire. Et c'est ce qu'il dit au verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc lorsqu'on grandit, lorsqu'on progresse dans la connaissance de ce mystère, Christ en vous, on est conscient que c'est Christ qui agit aussi à travers nous. Et que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et dans un autre texte, aux Corinthiens, il dit que notre capacité vient de Dieu. Donc il était conscient que par lui-même, il ne pouvait rien faire, mais sa capacité venait de Dieu et qu'il laissait Christ agir en lui. Il savait que ce qu'il pouvait faire, c'était grâce à la force de Christ qui était puissamment agissant en lui. Dans l'Épître aux Corinthiens, il dit que « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. » Et il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. » Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Il dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Et ça le dit dans 1 Corinthiens 9. Donc, le fait de savoir que Christ habite en lui et que c'est par la force, par la puissance du Seigneur qu'il peut agir, il va accepter cette charge. Une meilleure connaissance de ce mystère qu'est Christ en nous, cela nous permet de continuer donc à progresser spirituellement. Et l'apôtre Paul il dit que ce qu'il veut, c'est présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et pour cela, il dit, il travaille en combattant avec la force que Christ lui donne, la force qui agit en lui. En Éphésiens, il rappelle que pour tout chrétien, ce que Dieu veut, c'est que nous ne restions pas des enfants dans la foi, mais que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que Christ qui habite en nous, que les qualités qui sont en Jésus-Christ puissent se voir en nous et que les autres puissent voir les changements que Christ opère en nous. Et ce que le désir de l'apôtre Paul, c'est de présenter à Dieu des hommes devenus parfaits en Christ. Et c'est là tout le sens de son ministère, Donc, l'enseignement qu'il a donné et qu'il nous a laissé dans sa parole, et ces textes-là sont là pour nous aider à grandir, à avoir une meilleure connaissance de Dieu, progresser dans notre relation avec lui, pour que lorsque nous serons devant le Seigneur, nous serons présentés comme étant parfaits en Christ. Alors, donc, pendant toute notre vie chrétienne, l'objectif doit être cette progression. Nous n'allons jamais arriver à la stature parfaite là, mais quand nous serons devant le Seigneur, il va nous transformer en cela. Mais ça doit être notre objectif. Laisser Dieu agir en nous. Christ qui habite en nous, dans Éphésiens, il dit que Christ habite puissamment en nous pour qu'il nous transforme petit à petit. Donc la maturité spirituelle doit être un objectif pour chacun. Et là encore, pour atteindre cette maturité spirituelle, si on ne se fixe pas les objectifs, on ne va pas les atteindre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que l'ennemi met sur notre route pour nous empêcher de viser cette maturité spirituelle. Mais n'oublions pas que Christ est en nous et c'est lui qui veut œuvrer aussi en nous. Lorsque nous progressons dans la connaissance du Seigneur, et lorsque nous avons donc une meilleure connaissance de ce mystère, non seulement on est prêt à accepter la charge que Dieu veut nous confier, donc le service qu'il veut nous confier, on est prêt, on sait que c'est lui qui agit en nous, mais l'autre chose, c'est que nous trouvons dans le Seigneur la consolation dont nous avons besoin. Dans le verset 2 du chapitre 2, il dit « Afin qu'ils aient donc le cœur rempli de consolation », c'est déjà ça, il dit aussi « qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance ». Donc là, il donne toute une liste de choses comme résultat de l'action du Seigneur en nous, puisque nous connaissons, nous grandissons dans la connaissance de sa parole. Un cœur rempli de consolation. Des chrétiens qui ne se laissent pas abattre ni découragé par les épreuves ou les difficultés qu'ils rencontrent, mais qui sont affermis dans la foi. Des chrétiens qui, puisque leur connaissance de Christ augmente, trouvent dans la parole de Dieu les ressources pour pouvoir affronter les difficultés et trouver dans la parole la consolation dont ils ont besoin. Et ils peuvent, comme l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 37, que « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Parfois, l'épreuve ou quelque autre chose peut nous faire douter, peut nous faire régresser. Mais l'apôtre Paul dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, qui fait qu'aussi rien ne peut nous empêcher de continuer à le servir, et nous trouvons en lui la consolation dont on a besoin. L'autre chose, c'est que une meilleure connaissance de ce mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire, cela nous permet non seulement d'y trouver la consolation, mais aussi de vivre l'unité dans l'amour, dans ce verset 2, toujours dans ce verset 2. Donc cela nous pousse, frères et sœurs, à nous aimer les uns les autres davantage. Le désir de prendre soin de celui ou de celle Christ est mort devient quelque chose d'important pour nous, une priorité pour nous. Quand il dit, donc afin qu'ils aient donc le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour. On peut lire ce texte de, j'avais noté Romains 14. Alors, Romains 14, par exemple, verset 13 à 20. Il dit, Romains 14, verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Et j'avais noté aussi 1 Corinthiens chapitre 8. Et donc l'apôtre Paul disait aussi, « Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, voilà, toutes choses sont pures. » Et donc dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il dit, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9, « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » Donc là, il prend l'exemple de la nourriture pour dire que cette unité dans l'amour, lorsqu'on a une meilleure connaissance du Seigneur, lorsqu'on sait que Christ qui vit en nous, on doit tout faire pour protéger celui pour qui Christ est mort. On doit l'aimer comme Christ l'aime. Et donc, ça sera pour nous important de ne rien faire pour être une pierre d'achoppement pour celui pour qui Christ est mort. Et cela, c'est lorsqu'on laisse Christ vivre en nous, puisque Christ aime ce prochain, nous aussi, nous allons l'aimer. Et nous allons tout faire pour ne pas être une pierre d'achoppement pour ce frère ou cette sœur. Et lorsque nous sommes conscients de cette réalité, Christ en vous l'espérance de la gloire, nous sommes donc, il est dit aussi, enrichis d'une pleine intelligence, puisque grâce au progrès spirituel, dirigé par le Saint-Esprit, donc nous avons une meilleure compréhension des choses de Dieu. On peut mieux discerner la volonté de Dieu pour notre vie. Et cette connaissance du mystère de Dieu aussi sera meilleure. Donc, ce qui était un mystère pour ceux de l'Ancien Testament, que Dieu allait venir habiter dans le cœur de ceux qui mettent leur foi en Jésus, alors l'apôtre Paul nous le révèle. Et maintenant, à nous d'être conscients de cette réalité. Christ en vous. Maintenant, que faites-vous de cela? Est-ce que ça reste quelque chose de peu d'importance? Ou est-ce que vous dites, Seigneur, je suis conscient et je te remercie de ce que tu viennes habiter en moi. Je sais que je n'en suis pas digne, mais c'est ta volonté. Maintenant que tu puisses agir en moi pour que je puisse avoir une vie qui te soit digne et que je puisse accomplir l'œuvre à laquelle tu m'as appelé, que je puisse accepter la part de souffrance nécessaire pour l'avancement de ton œuvre. Que, Seigneur, je puisse continuer à progresser dans la connaissance de ta parole, puisque c'est toi qui vis en moi, pour que tu puisses continuer à me transformer comme tu le veux. Que, Seigneur Dieu, je puisse, sachant que tu es là en moi, que je puisse trouver en toi la consolation dont j'ai besoin. Que, Seigneur Dieu, je puisse... puisque tu vis en moi, que je puisse aimer mes frères et mes sœurs comme toi tu me demandes de le faire, comme toi tu les as aimés, comme toi tu as donné ta vie pour eux, que je ne sois pas une pierre d'achoppement pour aucun d'eux. Seigneur, que je puisse être enrichi d'une pleine intelligence pour comprendre, connaître ta volonté pour ma vie. Que je puisse faire ce qui t'est agréable. Voyez ? Donc que le Seigneur nous aide à déjà prendre conscience de cette réalité, Christ en vous, l'espérance de la gloire, et que nous puissions vivre en attendant son retour pour la gloire de son Seigneur. Amen.